la seconde nature des flux, morphogenèse, mimétisme et récursivité. Il va de soi que, étant donné l'ambition du titre, je ne parviendrai pas à résoudre, à répondre à cette question. J'aimerais ouvrir cette intervention par cette citation de Pierre Klosowski, qui est ou de Pierre Klosowski ou de Nietzsche, je ne sais pas très bien, parce que c'est entre guillemets, mais il n'y a pas la note de bas de page, qui dit « La nature n'a aucun but et réalise quelque chose. Nous autres avons un but, entre guillemets, et obtenons autre chose que lui. » Alors, dans ce livre si important, que fut pour moi, dans ma formation, Nietzsche et le cercle vicieux, et dont l'écho continue de me questionner encore aujourd'hui. Sans doute, la question posée par le titre même de cette rencontre, « Métamorphose et contamination, la permanence du changement », pourrait finalement trouver une réponse ou une reformulation possible dans l'intuition de Nietzsche, fameuse « l'éternel retour », et dans la manière dont celle-ci fut reprise d'un côté par Deleuze, comme différence, répétition, c'est-à-dire intensité, et d'un autre côté par Klosowski, comme simulacre et sélection. Mais je laisserai de côté, ou en arrière-plan, c'est-à-dire en le gardant toujours en mémoire, cet horizon nietzschéen, estimant sans doute qu'être nietzschéen, c'est une contradiction dans les termes, et que l'artiste que je suis doit plutôt tracer une voie parallèle, ne touchant jamais et suivant toujours, ou se laissant suivre, par les pratiques discursives. J'indique immédiatement que vous verrez des textes en bleu, en dessous desquels il y a marqué GPT-2. Je vous expliquerai quels sont ces textes. Ce sont des textes qui continuent d'autres textes. Donc j'aimerais recommencer, donc une seconde fois maintenant, par deux images. D'un côté, cette vie étrange du règne des gymnonicota, ou Slimmold, sur laquelle j'avais travaillé dans un projet qui s'appelait Contreforme, l'augmentation des choses. Et de l'autre, les images de GAN, ou réseau antagoniste génératif, qui forment le cœur technique, conceptuel, tout autant qu'esthétique, car les trois sont intimement liés, de l'installation Terre Seconde. Alors ces GAN produisent ici, à partir d'un stock de 14 millions d'images, d'un dataset qui s'appelle ImageNet, des images réalistes, mais qui, hybridant des catégories hétérogènes, ne sont pas associées à des référents réels. On peut alors annoncer, avec une emphase amusée, l'apparition d'un nouveau réalisme, d'un réalisme sans réel, qui est fondé sur la mémoire accumulée sur le réseau Internet, communément appelé Big Data, notre mémoire donc, à chacun d'entre nous, anonyme. Alors, j'aimerais donc adresser une interrogation entre ces deux images, entre l'image donc de ce slim mold et cette image des gammes. Car si leur provenance semble s'opposer, d'un côté naturelle et spontanée, de l'autre artificielle et calculée, elles apparaissent pourtant dotées d'un même type de mouvement. Quelque chose qui ne s'arrête pas, qui ne cesse de transformer sa forme, de se métamorphoser, qui n'est pas doué dans son animat d'intentionnalité et qui pourtant, d'une façon ou d'une autre, a une adresse, va vers, dans une tension dont nous avons du mal à penser la nature selon l'intuition immédiate d'une parenté entre ces deux formes. Alors donc, je reviens à cette image. Répétons. La nature n'a aucun but et réalise quelque chose. Nous autres, nous avons un but et obtenons autre chose que nous. D'un côté, la réalisation sans finalité de la nature, d'un autre côté, l'être humain qui a une finalité et qui réalise par la technique autre chose que son intention. Deux mouvements, deux désorientations, deux hégémonies brisées. Autre manière de dire ce que prononce l'épître aux Romains, nous savons en effet que maintenant encore, la création tout entière gémit et souffre les douleurs de l'enfantement. Ça répond à Dylan. Pas elle seulement, nous aussi, possédant les prémices de l'esprit, nous gémissons en nous-mêmes dans l'attente de notre adoption, c'est-à-dire de la rédemption de notre corps. Alors la ressemblance des mouvements animés consiste peut-être en ce que ces formes ne sont que les formes d'un change, pour reprendre cette formule chère à Catherine Malabou, qui nous servira ici de fil conducteur implicite. Qu'il n'y aura pas d'abord une matière qui changera de forme ou une forme qui deviendrait une autre forme et ainsi de suite, selon une certaine séquence chronologique, mais que le change ne serait que sa forme, la forme même du change. Réalisme sans réel, donc. Change sans être. point de changement donc s'appliquant sur un support stable, pas même d'instabilité. Je fais référence à la précédente intervention. Fin de l'illimorphisme, c'est-à-dire de la connexion entre la forme et la matière, mais autre chose. Alors je parle, dit Balzac, pour les gens habitués à trouver de la sagesse dans la feuille qui tombe, des problèmes gigantesques dans la fumée qui s'élève, des théories dans les vibrations de la lumière, de la pensée dans les marbres, et le plus horrible des mouvements dans l'immobilité. Je me place au point précis où la science touche à la folie, et je ne puis mettre de garde-fou. Alors cet autre du change pourrait trouver dans la nature-philosophie de la seconde moitié du XVIIIe siècle une réponse, car cette parenté entre les deux images que je vous ai montrées et qui aujourd'hui rapproche la contingence naturelle de la récursivité informatique dans la production continue des formes, la morphogenèse donc, n'est-elle pas la continuation du projet d'Hölderlin exprimé par Françoise d'Astur sous cette forme? La nature est le nom de la totalité elle-même du processus tout entier de différenciation qui est à l'œuvre dans l'univers et qui inclut en lui-même l'être humain et ses productions. Alors j'aimerais aussi rappeler qu'à la fin de sa vie tragique, Alan Turing s'intéressa à cette question de la parenté des formes dans un article fameux de 1952, « The Chemical Basis of Morphogenesis », où il a prédit le mécanisme chimique pour la formation des motifs biologiques, des décennies avant que celui-ci ne fût effectivement démontré. Dans l'objectif de questionner l'étrange ressemblance, la parenté, le mimétisme formel entre la nature, utilisons ce mot-là, même s'il est surdéterminé, et la technologie, en particulier la prétendue intelligence artificielle, que j'aimerais aborder comme une imagination artificielle, c'est-à-dire comme faculté simultanée de certains logiciels contemporains à produire des images, et nous, en train d'imaginer ces programmes, l'imagination artificielle, c'est les deux, je vais supposer qu'il s'agit de flux. Donc, question à laquelle je ne ferai qu'introduire ici, au regard des limites de temps. Alors, à la question de savoir ce qu'est donc la permanence du changement qui nous concerne aujourd'hui, je répondrai donc immédiatement les flux. Je pourrais à présent m'arrêter, mais je vais continuer. Parce que j'ai répondu à la question, donc c'est ça qui compte. Alors, les flux, de quoi s'agit-il? D'abord, au niveau sociologique quasiment, il s'agit d'un mot confus, surchargé de sens, d'une espèce de précompréhension surdéterminée historiquement, et qui désigne des phénomènes très hétérogènes. On parle de flux migratoires, de flux économiques, des flux informatiques, des flux énergétiques, du climat, etc. Pour le sens commun, les flux désignent un écoulement continu, puissant et imprévisible, irréversible. Au-delà de la diversité des phénomènes auxquels on applique ce mot, certains points communs. Quelque chose qui est incalculable, qui dépasse notre pouvoir, qui n'est pas humain, qui met en cause notre souveraineté, notre identité, un déferlement. Dès qu'on parle des flux dans les médias, il y a quelque chose de cet ordre-là. La tonalité affective du mot flux est la conjuration et l'ambivalence. Pourquoi? Parce qu'en même temps, on appelle à la fluidification comme élément de liberté, et on est aussi effrayé par le débordement. On veut donc la fluidité et la régulation en même temps, des flux sous contrôle. Alors, je vous propose maintenant de naviguer dans l'histoire résumée à l'extrême des flux. Je n'aurai pas le temps de justifier ici ma méthodologie, donc je vais la passer. Je vais commencer, mais l'histoire commence avant, mais je vais commencer à une civilisation qui s'est fondée sur la crue et la décrue, sur l'afflux et le reflux d'un fleuve et sur la promesse d'une vie éternelle. Il y a une relation pratique entre la réalité matérielle et le projet spirituel des Égyptiens. Passer sa vie à préparer la mort, préparer la crue du Nil. Non pas la résurrection, mais l'insurrection. L'Égypte est une civilisation fondée sur la variation, le manque et l'excès. Le Nil est l'élément matériel qui apporte simultanément la vie et la mort. L'eau est un récit primordial qui donne la vie, qui donne donc la morphogenèse, et c'est pourquoi souvent d'ailleurs les récits aquatiques sont des récits de multiplicité des formes, de la naissance de la multiplicité des formes, le débordement donc. Mais le débordement est paradoxalement aussi le récit primordial qui retire la vie, le déluge. Il y a quelque chose d'inextricable entre l'afflux et le reflux. C'est le premier moment de cette parenté des formes que j'essaye de développer ici. Alors, je vous signale juste que... Non, je ne signale pas ça, je passe. Deuxième moment, très rapide, c'est la Grèce. Toute cité est en effet fondée sur la gestion des flux en entrée et en sortie. Une ville, c'est des flux qui rentrent et qui sortent, c'est-à-dire sur une hydrologie ou encore une logistique, parce que l'hydrologie, le support matériel de l'hydrologie, c'est la logistique. Les flux sont un élément fondateur de l'être ensemble et du passage entre la mythologie et la science, comme je vais essayer de le démontrer. Le flux marin, quant à lui, était immense et inhabitable chez les Grecs, indifférencié et inhumain. Impossibilité de réguler ce flux techniquement par une hydrologie. Les flots, que les Grecs appelaient kouma, permettaient de naviguer et pourtant pouvaient aussi nous faire naufrager. Là encore, ambivalence entre la régularité des vagues et leur imprévisibilité. Face à ce danger, le navigateur grec va détourner son regard du cycle des vagues, du cycle de l'horizon, pour regarder le cycle du cosmos servant à se repérer. En levant les yeux au ciel, les flux vont commencer à être oubliés. Au-dessus des tumultueuses apparences, l'ordre céleste. Chercher dans l'ordre cosmique la loi cachée du désordre terrestre. Les flux ne sont pas un mouvement continuel, mais un arrêt instable, ou une instabilité à l'arrêt. On voit ça dans le mouvement de la toupie, et la toupie qui obsédait, il y a des toupies chez les Grecs, de nombreuses toupies. Ils mettent en cause la séparation entre le mouvement et le repos, comme le disait Balzac dans la citation que j'avais précédemment dite. C'est-à-dire entre le monde et les étangs. Cet ordre céleste, c'est l'oubli des flux. Le lointain devient le plus réel, le plus idéal, le plus régulier, et devient beaucoup plus réel que le plus proche, c'est-à-dire l'horizon des vagues. L'esprit est une topologie de l'espace, de la mise à distance. La raison est une mise à distance. La conséquence, jusqu'au XXe siècle, les flux vont être exclus de la science et appartenir au domaine technique de l'hydrologie. Un désordre irréductible car, par exemple, si on prend un cas très simple, si on regarde une rivière, on ne parvient plus tout simplement à distinguer la cause locale du résultat global, la partie du tout, le mouvement. Pas de décomposition possible des flux, donc pas de règles cartésiennes, mécaniques. La physis est en profondeur, la connaissance est plutôt en hauteur. Il s'agit, avec les Grecs, d'un renversement topologique. Alors, Michel Serres, qui écrit le plus beau livre, à mon avis, sur les flux, sur Lucrèce, je ne parle pas du climat, mais des météores, nuages, pluies et trombes, chute de grêle ou giboulée, direction et force du vent, maintenant et ici. Je ne parle pas du vent dominant. Les météores sont des accidents, des circonstances. Voisinage hasardeux, environnement événementiel de l'essentiel, la stance. Ça n'intéresse que les gens dont les doctes se désintéressent, les paysans et les marins. Ceux que les savants rencontrent en vacances, lorsque les affaires qu'ils préjugent sérieuses sont renvoyées au lendemain. Alors maintenant, le GPT-2, c'est quoi ? Mon frère, la Terre au milieu de la nuit, en couches successives, m'enfermant, grand-mère, qui m'écoute, bégaye. Si je lui pose une question, elle s'allonge et allume une lampe de poche. On ne quitte pas la maison, sauf quand on va à l'hôtel. C'est ce que pensent nos amis. Ces textes sont générés par une intelligence artificielle et certains des fragments des textes que je vous dis sont générés par une intelligence artificielle qui utilise une base de données d'environ 1,5 téra de textes pour générer la suite de nouveaux textes. Donc là, c'est la suite du texte de Michel Serres qui est le produit de cette mémoire déposée sur Internet. Et pendant toute mon intervention, ça va être un mélange entre moi et cette intelligence artificielle. Ce réseau est un cycle de neurones. Et puis, l'oubli des flux va aussi avec l'idée d'un ordre indifférencié qui va s'appliquer également à toute chose. C'est ainsi que cette logique va être appliquée au corps, considéré comme un reflet miniature du cosmos, et ceci depuis Hippocrate. La théorie humorale, la théorie des humeurs, est une théorie des flux corporels. Les composantes de l'univers sont aussi celles du corps, on les retrouve, et si celui-ci est malade, c'est que l'équilibre entre ces éléments est défaillant. La saignée consiste à extirper du corps un excès de flux, c'est-à-dire la partie effrayante des flux. La perturbation est pathologique car il faut que le corps soit régulier, comme l'ordre céleste de la nature. Les flux ne sont pas ce que le sens commun croit. Ils ne sont pas un écoulement régulier, mais un déséquilibre métastable. L'écoulement continu est de l'ordre des cycles qui définissent les lois célestes de la nature. La saignée, ou bléboptomie, va devenir une panacée au XVIIe siècle. Produire un écoulement d'un flux surabondant, c'est retrouver l'équilibre, c'est avoir une fluidité des flux sans leur tumulte. La saignée implique une incision qui va trouver dans le Christ une forme privilégiée que l'on peut interpréter comme un corps fluctionnel dont les liquides ne cessent de s'écouler au-delà même de la fin, selon une hydrologie corporelle inédite. La permanence du changement, la vie éternelle, c'est le Christ. Dans les tableaux représentant la passion du Christ, qui est le modèle de la vie de tout chrétien, il y a quantité d'écoulement, larmes d'eau ou de sang, blessures d'eau ou de sang. Le corps blessé, c'est le corps ouvert dont on voit l'âme en deçà de la surface. Le Christ saigne et on boit son sang. Le miracle chrétien, c'est de rendre indemne au cœur de la corruption. La tradition veut qu'un soldat romain, Longinus, perce le flanc du Christ avec une lance et que de l'eau s'écoule à la place du sang. Le sang correspond à la nature humaine du Christ, tandis que l'eau est sa nature divine, le baptême donc. De la pointe de la lance ne cessera de s'écouler de l'eau, tout comme les reliques ne cessèrent de saigner, ou les stigmates des croyants. Avec le Christ, il s'agit de créer un corps continu, qui continue de s'écouler, un flux éternel, une vie éternelle, une certaine permanence donc. Alors d'autres corps ne cessent de s'écouler. Alien est cette vie, ce conatus qui transperce les autres corps, un principe de vie destructeur et baveux dont la bave fait fondre l'espace euclidien du vaisseau spatial. Mais le mystère des flux trouvera encore d'autres corps avec les animaux et la fameuse théorie de l'animal-machine, s'imposant entre 1670 et 1820. Il s'agit d'expliquer comment les animaux fonctionnent sans âme, selon un ordre purement mécanique avec des rouages, le cœur, des ressorts, les muscles et des fluides, le sang. Cet ordre s'inscrit pour Descartes dans une mathésis universaliste où la nature est écrite en langage mathématique. Les machines sont-elles une géométrie rendue vivante par le flux sanguin? C'est lui qui assure le passage d'une figure à une autre. Cet imaginaire du vivant et de la machine est donc un véritable projet ontologique dont les racines sont profondes. Le monde est composé de matière à la façon de la nature, écrit Descartes. Cette analogie va entraîner l'Occident dans une dynamique technique sans précédent. Avec l'animal-machine, on a le point de bascule entre la question du corps et celui de la technique, par exemple avec le canard de Vaucresson qui, comme vous le savez, simulait les flux digestifs, la digestion et la production de sang. Et puis, d'autres flux, d'autres machines, là encore Alien, filme sur les flux, avec le lait dans lequel est baigné le cyborg. Alors, j'ai pas le temps d'aborder le 19e siècle, la physiologie au 19e siècle, mais l'invention de la physiologie va être un élément fondamental. Quatrième période, l'industrialisation. Nous entrons à présent dans la période qui précède tout juste la nôtre. Au XIXe siècle, les flux ne sont plus naturels ou corporels, mais énergétiques. Ils viennent submerger la Terre, dans sa matérialité même, dans sa géologie, dans des proportions absolument inédites. L'extractivisme est ce nouvel âge de la Terre. Cette mobilisation totale des ressources terrestres a été rendue possible grâce à l'automatisation de la corvée par le métier à tisser et l'organisation des voies de passage par des routes, des tuyaux, des fils, permettant l'arrivée des matières premières et la sortie des produits manufacturés. C'est ce qu'on nomme la logistique, qui est une question fondamentale et finalement très peu étudiée. C'est d'abord l'espace-temps de l'ouvrier qui est fluidifié par la décomposition en mouvement simple. Le corps de l'ouvrier n'est plus un corps, mais un organe qui appartient à un corps plus grand, celui de l'usine. L'ouvrier se synchronise à la machine, de là apparaît une nouvelle structure affective autour des objets qui deviendra, chez nous, le consumérisme. Le monde industriel est comme la mer antique. Partout et nulle part, elle va de place en place. Il faut imaginer le réseau immense pour produire et distribuer l'électricité. L'industrialisation est une naturalisation d'une cause technique. Et ceci ne peut se faire sans l'usage généralisé de l'énergie. Donc là, je réponds à la précédente intervention. La centrale électrique est mise en place dans le Rhin. Elle le somme de livrer sa pression hydraulique, qui somme à son tour les turbines de tournée. Ce mouvement fait tourner la machine, dont le mécanisme produit le courant électrique, pour lequel la centrale régionale et son réseau sont commis aux fins de transmission. La centrale n'est pas construite dans le courant du Rhin, comme le vieux pont de bois qui, depuis des siècles, unit une rive à l'autre. C'est bien plutôt le fleuve qui est muré dans la centrale. ce qu'il est aujourd'hui comme fleuve, à savoir un fournisseur de pression hydraulique, il l'est par l'essence de la centrale, écrit Martin Heidegger. Je n'aurai pas le temps ici de remonter aux origines de l'énergia aristotélicienne qui me semble surdéterminer cette question. Il importe simplement de savoir que cette énergia aristotélicienne fut considérée comme le potentiel de toute matière. L'énergie rend indifférente la matière. Les différences entre les matières s'estompent quand elles sont transformées en énergie, car seul importe le travail rendu par la matière. La métamorphose de la matière en énergie rend possible de la faire travailler et de transformer d'autres matières. On comprend que l'énergie qui influe assure la traduction, la transformation et l'équivalence de toute chose. C'est sa structure qui sert de modèle à l'argent, qui lui aussi est un flux qui coule partout. Équivalence et convertibilité non seulement de la monnaie, mais aussi du monde. Là encore, je ne peux qu'indiquer que cette nouvelle époque des flux est déterminée par la thermodynamique, qui va non seulement s'appliquer à la physique, mais aussi au corps par la psychanalyse. Je laisse ça de côté, puisque la psychanalyse, c'est une métaphore thermodynamique.